Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pas d'effet de manche, pas d'envolée lyrique, pas de catalogue de mesures. Pendant une heure à la tribune à l'Assemblée, le Premier ministre est allé droit au but et a imposé son style. Sa première ambition, réconcilier les Français, s'adresser à cette France silencieuse, celle qu'il appelle la France de la raison, des territoires, celle qui se sent un peu oubliée. Sa méthode, l'efficacité opérationnelle plutôt que les grands débats idéologiques. La concertation plutôt que le passage en force, le social, la protection des plus faibles, mais aussi la sécurité, la délinquance du quotidien. Le Premier ministre a détaillé le plan de relance, 40 milliards pour l'industrie, 20 pour l'environnement, 6 pour le système de santé. Sur les retraites, il confirme la fin des régimes spéciaux et renvoie, comme sur de nombreux sujets, à ses discussions avec les partenaires sociaux. Relance, territoire, sécurité, la France de Castex, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Selon un sondage IFOP à paraître demain dans Paris Match, Jean Castex recueille l'approbation de moins d'un Français sur deux. Nous y reviendrons. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et sociales. On vous retrouve tous les jours dans la matinale de France Info. Nathalie Saint-Cric, vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Vous venez de publier une enquête avec Marie Gariazo, c'est ça ?
C'est ça.
Hein, sur les Français confinés, intitulé « En immersion ». Et puis rappelons votre ouvrage « L'archipel français » aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors si certains en doutaient encore, il y a bien un Premier ministre à Matignon.
Oui, hein, il y a un Premier ministre à Matignon et même il a affirmé un peu un style aujourd'hui quand même.
Donc c'était son discours de politique générale.
Discours de politique générale, c'est le moment où on jauge un peu les capacités d'un homme à se mettre dans la fonction. Il y a tout un rituel, il y a un discours qui est important, il y a ceux qui font très long, il y a ceux qui font long, il y a ceux qui font court. Lui, il a plutôt fait une heure, tout pile, et il a bien ramassé son propos. C'est un style très direct. Alors là, il n'y a pas d'effet de manche, vous le disiez, pas de lyrisme, il ne cite pas les auteurs. Non, lui, c'est concret, c'est assez efficace dans la façon de présenter les choses. Et surtout, c'était très bien construit. Hein. La relance économique, la crise sociale, la transition écologique, les territoires, comme maintenant on dit toujours, j'aime pas ce mot-là, mais enfin bon, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut dire les régions, les départements, les
régions,
les mairies.
On dit les régions, voilà, les régions, les communes. Et puis un gros chapitre sécurité pour clouter tout ça. Et globalement, la feuille de route est dense. Il fera sûrement pas tout. Mais en tous les cas, c'est bien posé, les pieds dans cette France du bon sens et de la raison, puisque c'est ça, c'est sa formule. C'était pas du Raffarin, parce que c'est un peu plus sec et moins rond que du Raffarin. C'est pas du Rocard non plus, mais il y a un peu du parler vrai. Hein. Les guet-apens, les violences atroces, ignobles. Il est allé très très fort sur la sécurité. Et à l'arrivée, l'examen de passage est plutôt réussi. En tous les cas, si hier le président Emmanuel Macron a plutôt eu du mal à trouver son chemin, manifestement, Jean Castex, il sait où il veut aller. Et maintenant, on va voir les actes et les promesses de projets de loi qui seront déclinés dans les mois qui viennent.
Et on va détailler, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, notamment économiques, sur les détails du plan de relance, mais sur le style, un mot, Fanny Guinochet. C'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, on l'appelait quand même l'inconnu de Matignon.
Mais très pragmatique, hein. Ouais. Effectivement, l'efficacité. Il s'adresse à la France qui réussit, mais aussi à la France qui réussit un peu moins, qui a des difficultés, qu'on n'entend pas, qui est silencieuse, qui vit la crise ou qui va la vivre de plein fouet, celle qui a peur du déclassement. L'inverse de la France, de la mondialisation, des start-up, de la start-up nation version Emmanuel Macron. Donc c'est bien complémentaire, c'est aussi complémentaire de l'allocution d'hier du président de la République. Il donne des précisions sur des choses qui étaient restées très floues. On va en reparler, mais le plan de relance, effectivement, les retraites, par exemple, où là, il dit attention, on va bien séparer en deux parties ce qui est de la réforme systémique et de la réforme de financement. Et puis, il s'adresse au territoire et aux partenaires sociaux. Alors là, c'est l'ode aux syndicats, patronat, après des années de quinquennat Macron où ils étaient quand même vraiment relégués, mis de côté, un peu moins ces derniers temps avec les Gilets jaunes, où quand même le gouvernement s'était dit finalement, il vaut mieux avoir des intermédiaires que d'avoir une opposition frontale comme ça dans la rue. Ouais. Mais je n'ai pas calculé le nombre de fois où il a cité le mot
à chaque chapitre,
mais quasiment à chaque chapitre, en renvoyant à la réunion de vendredi avec les partenaires sociaux qui va être un sommet social. On se demande combien de temps elle va durer parce que tellement il y a de sujets qui vont y passer plus que la journée.
Et on y reviendra, vous avez raison, c'est un des dossiers majeurs, hein, urgent, la question des retraites, à la fois le financement et puis le corps même de la réforme, les régimes spéciaux, etc. Réconcilier les Français. Il a eu une grande tirade, on va l'entendre dans quelques instants, pour réconcilier ces Frances si différentes, ces Frances qui ne se voient plus, ces Frances qui ne se comprennent plus.
On dirait qu'il a lu le livre de Jérôme Fourquet, c'est-à-dire qu'en gros, il est effectivement, Fanny vient de le dire, le complément, c'est-à-dire qu'il a ce qu'Emmanuel Macron n'a pas, et probablement il n'a pas ce qu'Emmanuel Macron a, c'est effectivement il n'y a pas de lyrisme, on a droit à chaque fois des citations dans les discours, que ce soit Guillaume Apollinaire ou d'autres écrivains. Là, c'est effectivement des choses concrètes, c'est-à-dire l'intendance ne suit pas, c'est-à-dire là, c'est une phrase pour le coup du général de Gaulle, mais il a été extrêmement dur sur le constat de ce qui ne marchait pas en France, et quand vous parlez des deux France à réconcilier, lui, il parle des zones grises, il parle de juges de proximité, il parle des tags, il parle des endroits dans les petites villes où les gens... Il parle des gens qui se taisent, mais qui n'en pensent pas moins.
C'est ça.
Donc, il est là pour parler de cette France invisible. Alors, on a tous, il y a eu un certain nombre de théories sur ces invisibles, ces gens qui ne parlent pas. Mais il est là pour essayer de les ramener à la politique et leur montrer qu'on s'occupe d'eux, alors que quelquefois, Emmanuel Macron est plus stratosphérique.
Et il n'aimait pas les unes contre les autres. Hein.
Non.
La France des banlieues, des quartiers, mais aussi la France
rurale. Il ne joue pas les élites contre les autres. Il sait très bien que c'est... De toute façon, on est dans une période post-gilet jaune où on a intérêt à rattraper, le gouvernement a rattrapé les gens qui ne votent pas, les gens qui sont contre Emmanuel Macron et les gens qui considèrent qu'ils ont été abandonnés. Donc lui, il avait encore un peu plus d'accent aujourd'hui que d'habitude. Il a effectivement ce côté un peu rond et il rit pas souvent, mais il paraît qu'en privé, il est très drôle, mais il est carré, il est solide, il est concret, comme vous l'avez dit, il est pragmatique, il parle de la vie du quotidien.
C'est étonnant parce qu'habituellement, un discours de politique générale, c'est vrai que c'est là qu'on fait référence à ses auteurs, à son histoire politique, à son chemin. Là, on a quelqu'un qui assume le côté « je serai là pour que les choses marchent, je serai un super... » Il dit « je ne suis pas un porteur de valise, je ne suis pas un collaborateur, mais je serai dans l'efficacité. »
Il ne veut pas qu'on le prenne, parce qu'il y a un certain nombre de papiers dans la presse du genre « il n'y a plus de Premier ministre, c'est un collaborateur, c'est juste le porte-serviette, le type qui va faire les trucs qu'on lui dit de faire. » Donc ça, c'est probablement assez humiliant. Et dès le début, il a rectifié en disant « attention, j'ai mon caractère. » D'ailleurs, si on regarde bien dans les détails, il a obtenu un certain nombre de choses auprès d'Emmanuel Macron et c'est lui qui a gagné. Donc, ce n'est pas du tout un obscur haut fonctionnaire ou petit fonctionnaire. Simplement, il la joue sérieux et il fait le contrepoint de ce qu'on a eu peut-être un peu parfois trop avec le chef de l'État. Donc, il se complète bien.
Pas mal, ouais. Je sais qu'il existe une France qui ne dit rien, qui n'en pense pas moins, une France de la raison que nous devons écouter.
Alors effectivement, je pense qu'il a en tête les 60% d'abstention aux dernières municipales. Hein, cette France qui a décroché complètement, alors à la fois à cause du Covid, mais pas seulement. Et là aussi, cette France qui a été choquée par le massacre du chauffeur de bus à Bayonne. Et donc il vient de cette France périphérique, de cette France rurale. Il a sans doute en tête les regards, les échanges qu'il a pu avoir avec des Français de la rue, des Français lambda, qui ont du bon sens, qui voient les choses et qui, sans doute, ont parfois le sentiment que ce qui se traite dans les hémicycles ou ailleurs est vraiment très, très loin de leur réalité. Donc il est là, sans doute, pour ça, pour essayer de recréer le lien, retisser le lien. Quand Emmanuel Macron s'y essaye, on voit que ça ne fonctionne pas toujours très bien, c'est pas toujours très heureux quand on passe un coup de fil à Bigard ou quand on appelle tel ou tel. Et donc là, on a nommé quelqu'un qui va essayer de recréer du lien et surtout qui est à la tête d'un gouvernement de mission. Nous sommes là pour 600 jours et ouais. Il a pointé à plusieurs reprises l'impuissance publique, hein, qui est un des ferments du populisme et de la montée des votes radicaux, en disant... Il faut que ce que vous votiez, messieurs les parlementaires,
ouais,
soit
très clair, ça.
Appliqué, parce que jusqu'à présent, on n'en voit que des effets très, très dilués. Et donc, il faut que ça change. Et moi, qui connais l'appareil d'État de l'intérieur, je suis là pour être à la fois le relais de ces Français silencieux et du bon sens, mais également celui qui va être le chef d'orchestre et qui va faire en sorte que les rouages, les uns après les autres, seront
c'est
dégrippés.
C'est comme ça qu'ils comptent réconcilier les Français avec la politique, en leur montrant que ça sert à quelque chose.
Voilà.
Et vous avez raison, ça avait été évoqué par Emmanuel Macron lors de l'un de ses discours pendant la crise du Covid. Il expliquait que l'État manquait de réactivité, d'agilité. Et il a eu cette phrase, Jean Castex, il a dit « il est urgentissime de faire évoluer le logiciel de l'action publique, l'exécution, la mise en œuvre, l'efficacité opérationnelle plutôt que le débat politique ».
Oui, c'est le grand échec d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, qui a tout tenté, le conseiller dernier kilomètre, les objets de la vie quotidienne. Bon, il a vraiment essayé de faire en sorte que les décisions qui étaient prises par l'exécutif se traduisent concrètement sur le terrain. Or, lui-même reconnaît, d'ailleurs il l'a souvent expliqué en privé, à tel endroit on lui dit, mais alors lui il croit que ça a été voté, que c'est en place, ce n'est pas en place. Donc on sent bien que l'une des missions de Jean Castex, c'est de redonner de l'efficacité à la parole publique. Alors, encore une fois, à mon avis, il ne pourra sûrement pas tout faire, mais il doit y avoir un certain nombre de signaux où ça marche. Mmh. Et à mon avis, vu le discours qu'il a prononcé, c'est essentiellement sur la sécurité que ça va se jouer.
On va en parler de la sécurité. Il ne leur vend pas aux Français, à nous tous, une grande réforme de l'État.
Non.
Il dit, on va appliquer les choses et ça se fera au plus près du terrain. Et tous les deux mois, j'irai voir si ça marche.
Alors c'est ça, et typiquement, vous voyez, sur la question de la sécurité, ça fait longtemps que nous on voit dans nos enquêtes que les Français ne sont pas forcément sévères sur l'action des forces de l'ordre, ouais, des policiers, mais disent c'est l'appareil judiciaire, c'est le reste de la chaîne, alors, qui ne suit pas. Et là, il a, par exemple, indiqué qu'il allait mettre l'accent sur ce chaînon qui, selon lui, dysfonctionne ou qui est trop lent à produire des résultats. On a eu de très nombreux exemples de forces de l'ordre, des membres de forces de l'ordre qui disaient mais on passe notre vie à attraper des gens qui sont relâchés, et c'est ceux-là qui pourrissent la vie de ces Français silencieux. Et donc, je pense que Castex, dans sa tête, a tous ces éléments, tous ces paramètres.
Et on va y revenir vraiment sur la sécurité, mais je voudrais qu'on l'écoute. D'abord, Jean Castex, le président, n'en avait pas dit un mot, vous avez raison. Et le Premier ministre s'est emparé des sujets, notamment celui de la sécurité, de l'ordre public, avec la promesse d'une réponse ferme à la délinquance du quotidien. Un discours d'une heure, sans fioritures, axé sur la réponse à la crise, sa méthode et sur ce message appuyé, on l'a dit, à la France, de ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Pierre Barbin, Juliette Vallon et Thomas Buillet.
La parole est à monsieur le Premier ministre.
Pour Jean Castex et son nouveau gouvernement, le compte à rebours est lancé. Il reste 600 jours pour redresser le pays. Mais le Premier ministre veut d'abord le fédérer.
Il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. France des banlieues, France rurale, France des Outre-mer, France dite périphérique, France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Ces Frances-là sont notre pays autant que la France de la réussite économique, scientifique, industrielle ou culturelle, dont nous sommes légitimement fiers.
Au cœur de cette nouvelle feuille de route, le vaste plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé la veille par Emmanuel Macron, avec un enjeu principal, retrouver la souveraineté industrielle.
Nous sommes aujourd'hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Nous consacrerons, dans le cadre du plan de relance, 40 milliards d'euros pour que cela change.
Et selon les souhaits du gouvernement, la relance sera résolument verte. 20 milliards d'euros seront consacrés à la croissance écologique, en tête des mesures de rénovation thermique et un plan vélo ambitieux.
L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte.
Mais la première priorité pour Jean Castex et son gouvernement concerne l'emploi des jeunes.
Premier impératif, favoriser l'embauche. L'État y aidera, comme l'a annoncé le chef de l'État, avec un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail à hauteur de 4 000 euros par an, pour les jeunes de moins de 25 ans, jusqu'à 1,6 SMIC dans toutes les entreprises et pour une durée d'au moins un an.
Une heure de discours et plusieurs annonces, surtout économiques. Mais le Premier ministre veut aussi renforcer l'autorité de l'État.
Les violences, la banalisation de la délinquance du quotidien sont autant de faits inacceptable, qui exaspère à juste titre les Français. Ils appellent une réponse de l'État ferme et sans complaisance.
À la sortie, l'opposition dénonçait un discours sans ambition.
On espérait de grandes mesures, une audace inédite, un regard critique sur ce qui a été fait depuis 3 ans. Et dans la meilleure des hypothèses, il nous dit, nous allons remettre en place ce que nous avons dérangé. Mais au-delà de ça, je dois vous dire qu'il n'y a pas grand-chose.
On est nombreux à ne pas voir où est le nouveau chemin. Bon, bien sûr, il y a quelques éléments, quelques touches sur l'écologie, les pistes cyclables, le verdissement, on a bien entendu. Mais en réalité, où est le nouveau chemin? Enfin, on a vraiment l'impression qu'on est dans la continuité de la politique qui est suivie depuis 3 ans.
Pour les plus anciens d'ici, ça commence à me rappeler Raymond Barre avec Giscard et ça ne lui a pas porté bonheur. Lui aussi, c'était un premier ministre inconnu. Soi-disant le meilleur économiste du monde, lui c'est soi-disant le meilleur technocrate de France. Je pense que ça, le quinquennat va être très difficile, la fin du quinquennat va être très difficile pour ce gouvernement. J'engage
la responsabilité. Dès vendredi, Jean Castex réunira les partenaires sociaux pour fixer les nouvelles orientations du gouvernement.
Un discours de politique générale très applaudi ou normalement applaudi ?
Normalement applaudi. Hein.
Pas d'ovation ?
Une petite ovation. Si, il y a une ovation quand même à la fin de la part des députés de la majorité. S'il n'y aura pas de suspense sur le vote de la confiance, on est...
On disait qu'il y avait des états d'âme dans la majorité. Il n'y en a plus.
Il y a des états d'âme dans le groupe. Peut-être qu'il manquera quelques voix au moment du décompte. Mais bon, là, globalement, il a touché les cases qu'il fallait. Et la case qui était surtout importante, c'était celle de la transition écologique. Et ça devrait rassurer les députés de la majorité.
Beaucoup de questions ce soir sur la sécurité. Combien avant Castex nous ont parlé de sécurité sans que rien ne change, sauf dans le mauvais sens?
Beaucoup. C'est, pour le coup, comme disait tout à l'heure Jérôme Fourquet, la sécurité, c'est le symbole de l'impuissance de l'État depuis au moins 3 décennies. On va dire qu'hormis peut-être la période Nicolas Sarkozy, qui avait sans doute réconcilié une partie des Français avec l'efficacité de la parole publique, parce que les gens avaient le sentiment qu'il s'était passé des choses. C'est d'ailleurs un moment où, entre la hausse de la délinquance des années Jospin et la baisse qui suit, il y a des résultats. Depuis, c'est assez compliqué. Et surtout depuis, il y a ce sentiment que les gens sont relâchés, sont arrêtés. D'ailleurs, il a une formule, il dit qu'il faut mettre fin à ce sentiment d'impunité aux incivilités. Et c'est pourquoi il charge le nouveau ministre de la Justice de s'enquérir de ce dossier. Mais on sent qu'il met beaucoup de son poids de nouveau Premier ministre et de son expérience de l'appareil de l'État sur la question de la sécurité, au moins autant que pour la relance économique. J'ai trouvé que dans la proportion et dans l'engagement de Jean Castex, j'ai trouvé que c'était très très fort. Et ils ont bien compris qu'actuellement l'opinion s'inquiète beaucoup de la détérioration de la sécurité en France. Peut-être que les récentes et nombreuses libérations dans les prisons françaises, parce que les chiffres ont singulièrement baissé, ils sont pour quelque chose. Parce que là, actuellement, il y a un nombre de faits divers très choquants pour les Français. Bayonne, encore ce qui s'est passé les nuits dernières à Cannes, je ne sais plus où. Enfin, il y a eu des villes où encore il s'est passé des choses.
Et les violences dont il a parlé systématiquement lors des manifestations qui choquent beaucoup les Français. Donc, avec cette idée de lutter contre la banalisation de la violence, qui sont des faits inacceptable et qui exaspère les Français. Il ne le prend pas par le haut, là.
Non,
il le prend par le quotidien.
En disant, donc c'est ce chauffeur de bus, il commence sa phrase avec les tags. Oui. Donc, ça commence par des tags, et donc il est dans sa petite ville de Prades, et il voit cette France silencieuse qui est complètement abasourdie et stupéfaite, que cette France qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins, en disant de toute façon ça ne sert à rien d'appeler la police, ils ne viendront pas, ou les types seront relâchés derrière. Au moment où il s'exprime la veille, il y avait une rave party qui était interdite. Et donc, on a envoyé une ministre, parce que Mme Schiappa est ministre, pour rappeler les consignes de distanciation sociale. Et donc, je pense que toute la France a regardé de manière soit un peu ricanante, soit stupéfaite, les photos qui... Voilà, en disant, mais la force de l'État n'est plus aujourd'hui utilisée.
Et c'est la justice qui l'a interpellée.
Et c'est la justice, en disant, les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, mais il faut qu'ensuite... Il y a la réponse pénale qui suivent derrière, d'où les moyens qui vont être financiers et humains qui vont être donnés à la justice, à la fois les tribunaux, mais aussi la pénitentiaire, pour que les peines soient appliquées avec aussi cette mesure de juge de proximité.
Voilà, ça c'est une annonce, ça existe déjà, de proximité spécialement affectés à la répression de ces incivilités.
Voilà, donc je pense pas que ça existe sur ce terme-là.
D'accord.
Mais donc c'est la volonté d'envoyer un signal à l'opinion en disant... On va s'occuper de ça. Vous savez, il y a quelques années maintenant, il y avait un maire de New York qui avait la théorie du carreau cassé, Giuliani s'appelait-il. Et donc là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, on ne va plus laisser des choses impunies et on va traiter à la base, à hauteur d'homme, un certain nombre de faits qui, aujourd'hui, pourrissent le quotidien de nos concitoyens. Et donc, si jamais il parvient à avoir des résultats là-dessus, Bruno, je dis le rappeler, ce n'est pas forcément une mauvaise affaire, parce que les Français, aujourd'hui, sont revenus de pas mal de choses et ils ne jugent que sur les actes. Et donc, si en matière de sécurité et de justice, on voit, mais c'est court, hein, 2 ans, des améliorations, au moins, on lui créditera ça.
Avec ces mots très clairs, très simples, de soutien aux forces de l'ordre.
Outre, il a été très clair dès le début, de toute façon, y compris dans la première sortie qu'il a pu faire. Il est plutôt sur une ligne, je ne veux pas dire qu'il est sur la ligne valse, parce que comme vous parliez d'un certain nombre de premiers ministres qui avaient affiché une volonté de tolérance zéro, une valse était dans ce cas-là. Et là aussi, elle a un point qu'il a marqué, à mon avis aussi, c'est de la laïcité. On a toujours accusé Emmanuel Macron d'avoir été super flou sur la laïcité, même si c'était un petit peu... Alors, ce n'était pas un discours, mais on attendait des actes précis. Il avait chargé Castaner de régler les choses, rien ne s'est produit. Et là, on nous annonce un projet de loi dès septembre sur,
les
séparatistes. Alors, les séparatistes, c'est un mot qui a été employé dans une allocution de 20 heures d'Emmanuel Macron, notamment contre le... Alors, est-ce que c'est le séparatisme? C'est les communautés qui s'organisent entre elles et qui ne veulent pas s'intégrer dans la République en réclamant un certain nombre de droits. Il y a la fameuse expression qui a été réutilisée par Gérald Darmanin l'autre jour en disant la loi est supérieure à la foi. Et c'est une espèce de petite musique qu'on avait assez peu entendue de la part d'Emmanuel Macron, mais qui commence à remonter très fort chez Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin et chez Jean Castex également. Donc ça, c'est quelque chose, le couple sécurité-laïcité, c'est quelque chose qui, à mon avis, va vraiment être mis en avant. Et c'est pour moi une sorte de tournant par rapport à ce qu'on avait pu entendre avant.
Pourquoi un tournant ?
Un tournant, parce que si, d'abord, c'était quelque chose qui n'était pas considéré comme essentiel ou important aux yeux de l'exécutif, Édouard Philippe, ça lui cassait les pieds, mais il trouvait que ce n'était pas la chose primordiale à faire. Emmanuel Macron, qui avait une vision assez libérale, considérait au début que finalement, si on laissait prospérer différentes communautés entre elles, c'était peut-être une vision à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire où on peut avoir...
Il voulait même changer la loi de 1905. Exact.
Alors, il a toujours été un peu... Comment dire, là-dessus, vision très mondialisée, anglo-saxonne. Et là, on a une sorte de vision Troisième République de Castex, qui d'ailleurs en a un peu l'allure parfois, et dans sa façon de s'exprimer à l'Assemblée nationale.
Où, avec une déclaration d'amour à la République. Hein.
Oui, mais voilà, et ça va avec.
Ouais, ça va avec.
Alors, on l'a déjà entendu. Ouais. On l'a entendu chez Manuel Valls, on l'a moins entendu chez Édouard Philippe. Là, on verra en septembre s'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un rapport qui a été remis au Sénat sur un certain nombre, sur l'islam politique. Il a cité l'islamisme politique. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent en France, donc on peut se dire qu'on peut au moins le créditer de vouloir faire quelque chose et rapidement.
Lutter contre l'islamisme radical sera une préoccupation majeure, a dit Jean Castex. Le projet de loi contre les séparatismes, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais il l'annonce.
Il l'annonce et il y a quelques pistes, notamment il y a des pistes dans le sport, parce qu'il y a un domaine qui n'a pas été... Jean-Michel Blanquer a récupéré le sport maintenant et souhaite véritablement se battre parce qu'il y a un certain nombre d'associations sportives où il y a des discriminations entre les hommes et les femmes. Et il y a un certain nombre de choses sur le financement à l'étranger, donc des choses assez concrètes qui devraient voir le jour en septembre.
Un autre axe majeur de son intervention, les territoires. Alors, Bruno Jeudy n'aime pas le mot. En tout cas, il l'a beaucoup utilisé. Tout part de là. Tout part de là. Pour la relance, tout part de là dans la manière de faire de la politique désormais.
C'est la proximité. C'est le mot au-delà des territoires.
Oui,
c'est la proximité. C'est à la fois montrer que l'État se décline concrètement, par des mesures concrètes. Et il y a quand même des mesures de la vie du quotidien. Hein. Par exemple, les repas à 1 euro pour les étudiants boursiers, c'est facile à comprendre, c'est simple, c'est le quotidien. Et puis, effectivement, se rapprocher des territoires. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'il parle beaucoup du département, qui était plutôt un territoire qu'on avait l'impression dans le millefeuille territorial français, entre les régions, les métropoles, la commune. Le département, c'était plutôt le territoire qui était négligé.
On voulait même le supprimer.
On voulait le supprimer, voilà. Et là, il remet l'accent sur le département, parce qu'il y a un côté social. Le département, c'est la zone territoriale qui s'occupe du social, qui gère le RSA, le revenu de solidarité active, qui gère l'aide sociale à l'enfance, qui est quelque chose aussi dans la proximité. Là, évidemment, il fait... En politique, il fait plaisir aux élus, notamment aux élus du département. Mais c'est pas neutre qu'ils choisissent ce cran-là.
C'est le gaullisme social.
C'est le gaullisme social, voilà. C'est la façon de montrer, regardez, on va être dans la sécurité, mais la sécurité, ça passe aussi par la protection. Je trouve que la teneur sur tous les sujets, finalement, c'était de montrer, on va vous assurer... que l'État va vous protéger. Vaste programme, 600 jours pour réussir à le faire, c'est compliqué. Mais c'est effectivement ce qu'il a voulu faire passer comme message aujourd'hui. Maintenant, on va voir si les mesures décidées d'en haut vont se décliner. Mais par exemple, sur les contrats aidés, sur le fait de permettre aux collectivités de refaire des contrats aidés, c'est-à-dire d'embaucher des gens en ayant une aide de l'État, une aide financière, là, c'est un revirement complet par rapport...
On les a supprimés au début du quinquennat.
300 000 supprimés, on était à 120 000, 130 000 l'année dernière. Souvenez-vous, la bataille, ça avait donné lieu à une bataille féroce entre les élus, justement, qui disaient dans les mairies, on embauche des jardiniers, des cuisinières, des emplois de proximité grâce à ces emplois aidés. Là, revirement, on va faire des contrats d'insertion. C'est ni plus ni moins un retour à une vieille politique, quelque part.
Mm-hmm. Alors, l'accent mis sur le département, c'est aussi parce que c'est dans ce territoire qu'il y a un préfet.
Oui.
C'est l'État. Hein, lui, il est maire de Prades.
Il a dit que ça a très bien fonctionné, l'association
voilà.
maire-préfet.
Voilà, donc pendant le déconfinement, donc ouais. il l'a expérimenté. Il est maire de Prades. Prades, c'est une sous-préfecture. Donc il y a l'État qui va être au plus près. Maintenant, on est dans ces grandes régions. Certaines comptent 12 ou 15 départements. Donc, encore une fois, il faut que ce soit à hauteur d'homme. Et puis, le département, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu la Troisième République. Ouais. Les collectivités modernes, c'est les métropoles, c'est les grandes régions. Là, on revient à la France de toujours. La France à 100 départements, à une journée de cheval de la préfecture. Et c'est ça aussi... qu'il veut incarner avec la vision sociale aussi du département.
C'est important cette vision sociale sur laquelle vous insistiez, parce qu'à plusieurs reprises, hein, il a évoqué cette France qui protège, la protection de ceux qui vont se prendre de plein fouet la crise. Vous avez parlé des élèves hein, sur la cantine à 1 euro, il a parlé aussi beaucoup des jeunes. Sur l'écologie, on va en parler, il a dit qu'il ne faudrait pas que ce soit eux qui fassent l'effort alors voilà. que c'est à nous de faire les réformes. La protection... Ça, Emmanuel Macron avait touché un mot, ce sera l'axe des 600 prochains jours.
Voilà, alors la protection face à la délinquance et aux incivilités oui. et face à la crise économique et sociale dont on voit dans nos enquêtes que les Français la subodorent et la redoutent. En disant là, on part en vacances, mais on a tous bien compris que ça risquait d'être très dur à la rentrée. Et donc, le Premier ministre veut passer le message que l'État, jusqu'au dernier des territoires, sera aux côtés des Français pour protéger, amortir... et accompagné dans cette épreuve.
Et là encore, ça ne s'accompagne pas, on parle des territoires, de la proximité, d'une grande réforme, d'un bidule, d'un machin, comme aurait dit le général. C'est concret, c'est juste qu'on va s'appuyer sur les départements. Il n'y a pas d'ambition réformatrice très vaste, parce qu'il y a urgence.
Pas le temps, ça vient d'être dit. Ouais. C'est vrai que le président de la République avait envisagé peut-être un nouvel acte de décentralisation. Alors, il préfère le mot de déconcentration. Finalement, il y a renoncé. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Bon, le département, c'est vieux comme ça a plus de 200 ans. Il a lui-même été élu départemental. Hein. Il est encore conseiller départemental des Pyrénées-Orientales. Donc il connaît. Lui, d'ailleurs, il a parlé plutôt de. Puisque les fameux contrats de développement écologique, c'est le grand truc là, qu'il a annoncé aujourd'hui. Donc ça va se décider au niveau des bassins d'emploi. Donc je pense que le bassin d'emploi, c'est égal canton, hein, c'est à peu près ça, ou deux cantons. Et donc c'est à ce niveau-là que lui veut travailler. Oui. Il veut travailler avec les élus locaux et l'État financera ses contrats. Alors, ces contrats, il a détaillé, d'ailleurs, c'est assez concret. Hein, c'est développer le tri sélectif,
on va en parler de l'écologie, parce que c'était très important.
Donc, c'était assez détaillé et il met ça vraiment, il descend tout en bas au niveau du bassin d'emploi et on n'est pas sur quelque chose, voilà. un grand acte de décentralisation où il faudra des mois. Je pense que c'est l'urgence qui commande. 600 jours, c'est très court. Et en plus, 600 jours, chacun sait qu'on est quand même... septembre 2021, on a déjà basculé dans la présidentielle. Donc c'est plutôt une grosse année.
Et descendre plus près du territoire, sur l'État, il dit qu'il n'y a plus d'embauche dans les administrations centrales, dans les ministères, c'est dans les préfectures, dans les cantons. Voilà. Et parce que ça aussi, nous on le voit dans nos enquêtes, où sont les fonctionnaires? Ils sont à Paris, ils sont dans les grandes villes, ils sont dans les ministères. Et donc, il faut remettre des gens sur le terrain. Et donc, ça se complète très, très bien.
Et ça se complète et c'est cohérent avec la réouverture des petites lignes. C'est-à-dire tous les gens qui considéraient qu'ils ne pouvaient plus prendre le train, les lignes de train, qui avaient été fermées en début. Et c'est effectivement l'incarnation du bon sens près de chez vous, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui étaient réclamées par les...
C'est quand même complètement orthogonal par rapport à ce qui était fait depuis le début. Il faut quand même dire aux Français que les gens se disent... Alors, on a fermé les petites lignes. On a arrêté les employés des... C'est incroyable, ce discours, il est orthogonal par rapport à celui peut-être d'Edouard Philippe de juin 2017.
Donc, quand on dit qu'il n'y a aucun tournant, finalement c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire le côté libéral fou, comment dire, totalement libéré, dévergondé d'Emmanuel Macron, enfin libéral fou, C'est une vision.
Libéral assumé.
Libéral assumé, c'est-à-dire, en gros, on doit pouvoir s'en sortir quand on travaille, quand on est ce côté un peu, les battants réussissent et pas les autres. Là, on a un interventionnisme d'État qui est totalement assumé. On a un traitement du social du chômage qui est totalement assumé. Donc,
moi,
il y a effectivement...
plutôt qu'il est en train de... Pour reprendre une formule...
Il est en train de préparer les élections.
Non, non, il remet un peu l'église au milieu du village, parce qu'il y a quand même eu des choses qui étaient un peu... Les Français les ont protestées violemment, quand même, certaines des décisions qui avaient été prises en 2017. La fermeture des lignes, des petites lignes, par exemple, c'est quelque chose qui était au cœur de, aussi des, chez les Gilets jaunes. Hein.
Vous vouliez finir, Nathalie Sacré ?
Je voulais défendre mon tournant.
Mais vous avez bien défendu.
Mine de rien, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas mises en avant et qui sont quand même une espèce, non pas de tête à queue, mais de révision globale de la politique publique.
Fanny Guinochet.
Juste pour poursuivre, vous avez aussi la réintroduction d'un plan commissariat.
Ah ben voilà, je voulais en parler.
Voilà, donc là, c'est
alors, la juste pour les gens qui nous regardent, voilà, le commissariat général au plan, c'est donner, l'idée de donner
des impulsions, des décisions d'en haut, des grands programmes. C'est comme ça que la France a fait le TGV, le nucléaire, a pris des options très importantes pour notre économie. Mais aussi des choix en fonction des époques. Et c'est quelque chose qui... C'était un dispositif qui avait été supprimé en 2006 avec Dominique de Villepin. Et là, le voilà qui réapparaît. C'est une demande notamment, par exemple, de syndicats. EFO a toujours demandé en disant, la CGT aussi, il n'y a plus de politique industrielle parce qu'on ne sait pas, on va... Et c'est l'antilibéralisme quelque part. On décide, c'est volontaire, on décide que demain, la France fera de l'hydrogène, on décide que demain... La France investira dans la batterie électrique. On décide. Ouais. Et c'est vrai que c'est la planification. C'est pour ça d'ailleurs que les élus de la France insoumise avaient le sourire.
Ah ben ils le réclament depuis longtemps.
Parce qu'ils le réclament depuis longtemps. Donc il a aussi su flatter à la fois des gens de gauche et à la fois de droite. Parce que par exemple sur les retraites, il dit.
Alors on va parler des retraites. Sur le commissariat général au plan, il parle donc de la loi de programmation annuelle, notamment de la recherche, avec 25 milliards qui seront mis dans la recherche publique pour les 10 prochaines années. Là aussi, c'est l'idée d'anticiper sur une politique industrielle innovante pour les années qui viennent. Le sujet était attendu, vous venez d'en parler à l'instant. Jean Castex a fixé le cap sur la réforme des retraites. La fin des régimes spéciaux est actée. La réforme systémique soumise de nouveau à la discussion. Les mesures financières seront, elles, discutées à part. Le Premier ministre tente de déminer un sujet qui reste en réalité éruptif. Émilien David et Michel Bouilly.
En matière de retraite, la crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable, notamment pour les femmes et les travailleurs modestes, passant par la création d'un régime universel.
La réforme des retraites n'est pas morte. Et le nouveau Premier ministre le martèle. La fin des 42 régimes est pour bientôt. Un terrain miné. Car tous les partenaires sociaux ont déjà averti. Ils ne veulent pas rouvrir le dossier des retraites en cette période de crise.
Ce dossier, qui est source d'un conflit, c'est pas le moment.
La priorité des priorités, ça doit être l'emploi. On ne va pas se remettre à se foutre sur la gueule sur la question des retraites dans cette période.
Ces centaines de milliers de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on leur dit ? Attendez, on s'occupe de la retraite ? Oui.
Une union sacrée qui s'étend même jusqu'à la principale organisation patronale.
Et je trouve que se précipiter cet été, comme ça a été, semble-t-il, la demande du président de la République, pour renégocier autour de ce sujet, qui est un sujet anxiogène, ne me paraît pas la bonne priorité.
Mais pour le gouvernement, il y aurait urgence, une urgence budgétaire. Selon une estimation du Conseil d'orientation des retraites, la crise du coronavirus va aggraver le déficit du système en 2020. Il pourrait grimper à 30 milliards d'euros, au lieu des 4 milliards initialement annoncés. L'exécutif a cependant promis de revoir la copie de sa réforme.
Elle ne peut pas se faire comme elle était en manché avant la crise du Covid. Ce que le Premier ministre va devoir faire avec les membres de son gouvernement compétent et les partenaires sociaux, c'est de définir le calendrier pertinent qui permet d'être lucide. Nous savons tous ce qu'il en est de la réalité.
L'exécutif n'a pas précisé les contours de cette nouvelle réforme. Mais des pistes ont été évoquées dans les colonnes du Parisien ce week-end. Le journal fait état d'une note confidentielle de la direction de la Sécurité sociale qui évoque plusieurs réformes alternatives, comme par exemple une clause du grand-père généralisée. Le système universel par points ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, ceux nés après 2004. ou encore des mesures d'âge. L'âge légal de départ à la retraite pourrait être relevé de 62 à 64 ans.
Macron, si tu savais, ta réforme, ta réforme.
Des nouvelles pistes de réflexion qui relancent un feuilleton interminable et mouvementé. Présentée en septembre dernier, cette réforme a provoqué un mouvement social historique. La plus longue grève de l'histoire de France finit par pousser le gouvernement à lâcher du lest. Mi-janvier, Édouard Philippe annonce le retrait de l'âge pivot.
Je dirais que ce soir, nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir.
Pour ralentir l'adoption de la réforme, les députés d'opposition lancent une offensive à l'Assemblée en proposant des milliers d'amendements. Mais le gouvernement choisit de passer en force en ayant recours au 49-3. Le texte est adopté sans débat à l'Assemblée nationale. Mais mi-avril, la crise du coronavirus met en pause les travaux parlementaires.
J'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites.
Un ancien dossier que doit maintenant gérer un nouveau gouvernement. La réforme des retraites redevient une priorité. La rentrée sociale pourrait bien être explosive.
Et cette question, les Gilets jaunes semblent déjà mobilisés. Comment l'exécutif peut-il remettre sur le tapis sa réforme des retraites ?
C'est bien pour ça que Jean Castex a pris soin cet après-midi de séparer les deux. Est-ce que ça suffira ? C'est-à-dire la partie systémique, c'est-à-dire on bascule vers un système universel par points. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, c'était dans son programme. Donc il veut, en 2022, s'il se représente, dire « regardez, c'est inscrit, on le fera ». Après, quelle échéance, on ne sait pas. Et puis la mesure paramétrique parce que il y a quand même un problème financier. Il y avait un problème financier avant et là, avec la crise, les retraites, c'est très simple. Hein. Si vous ne travaillez pas, si personne ne travaille, s'il y a beaucoup de chômage, vous n'avez pas de rentrée d'argent. Et c'est un poste de défense, de dépense très important parce que il y avait eu une étude en 2019 qui montrait que quand l'État français dépensait 1 000 euros, les retraites, c'était 268 euros. Donc, ce n'est pas rien. C'est vraiment... Et c'est la protection sociale, c'est le premier poste de dépense. Hein. C'est 570 euros au total avec la santé. Donc, sur ce point, jusqu'à présent, on n'a jamais baissé les pensions des retraités. C'est un peu le message aussi que laisse entendre Jean Castex, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler davantage. Donc on va voir, il s'en remet aux partenaires sociaux, qui tous unanimement, vous l'avez rappelé dans votre reportage, que ce soit les patrons ou les syndicats de salariés disent c'est une réforme explosive. On va voir comment il va essayer de jouer en séparant les deux dossiers, chose que n'avait pas réussi à faire Édouard Philippe.
Ce qu'il ne voulait pas faire.
Et ce qu'il ne voulait pas faire.
Ce que lui demandaient déjà à l'époque les partenaires sociaux, dont la CFDT. Sur les régimes spéciaux, il prend la peine de dire qu'il supprimera les régimes spéciaux.
Oui, ça, ce n'était pas un scoop. Voilà. La question, c'est à quelle échéance ? Parce que les régimes spéciaux, est-ce qu'il les quid des gens qui sont encore bénéficiaires de ces régimes ? C'est la fameuse clause du grand-père.
Il a dit une petite phrase.
Oui, il a l'air de laisser entendre que ça se négocie. Donc, il n'a pas envie de remettre dans la rue un certain nombre de professions qui sont bénéficiaires des régimes spéciaux. D'ailleurs, la CGT appelle déjà à une manifestation début septembre à la rentrée. Donc, le message, il est aussi très clair. Il veut s'éviter ça, ce qui serait... par ailleurs, catastrophique pour l'économie, alors qu'elle repart doucettement. Mais alors là, vous avez un certain nombre de commerces et de restaurants. S'il y a de nouveau des mouvements sociaux, ça serait délétère économiquement aussi.
Alors, pour financer tout ça, pas de hausse d'impôts. Là, oui. Il a calé ses pas sur ceux du chef de l'État.
Oui, il est resté évidemment sur la ligne fixée par le chef de l'État. Pas de hausse d'impôts. On avait parlé éventuellement d'un retour de l'ISF. Certains avaient parlé, y compris dans la majorité d'ailleurs, avaient parlé aussi d'une contribution spéciale des hauts revenus. À rien de tout ça. Il y aura même. Alors, la seule chose, c'est le report de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% qui la paient
il
encore.
En a pas parlé.
Il n'en a pas parlé, mais enfin, le président l'a dit hier. Donc, on sent que sur la question des impôts, hop, il n'y a pas de hausse d'impôts. Donc, ce qui veut dire quand même qu'à l'arrivée, parce que Fanny vient de le dire, les contraintes financières pèseront quand même un moment ou un autre. C'est pour ça que le président de la République, sur le dossier des retraites, est quand même embarrassé, puisqu'il veut à la fois sa réforme par points, Mais vis-à-vis de l'Europe, il a quand même quelques obligations à réformer les retraites. Ça fait d'ailleurs partie, ça fait un lien avec ce qui va se passer le week-end prochain. Parce qu'aujourd'hui, pour obtenir ce fameux plan de relance européenne que la France a convaincu l'Allemagne d'aller maintenant vers cette mutualisation des dettes, vers ces subventions, 750 milliards, hein, c'est une sacrée somme. Pour obtenir ça, les pays, pour faire voter tous les pays qu'on dit radins, c'est pas très joli, mais enfin, on les appelle comme ça. Donc les Hollandais, les Autrichiens,
Suédois, ou les bons gestionnaires,
c'est ça. Ou les bons gestionnaires, eux veulent justement que les États du Sud fassent des réformes. Et il y a les retraites sur la table. Donc Emmanuel Macron, il est quand même obligé de continuer à avancer. Il a donné mission à Jean Castex de poursuivre la réforme des retraites avec les difficultés que Fanny vient d'évoquer. On ne voit vraiment pas comment il peut aboutir pour l'instant, compte tenu du mur qu'il a devant lui. Mais à la fois, il y tient en termes de symbole par rapport à son programme de 2017, et deuxièmement, parce qu'il a la pression aussi de l'Europe et d'un certain nombre d'États qui disent on donnera l'argent. C'est quand même 40 milliards pour la France, le plan. Si le plan passe, c'est 40 milliards, ça finance quasiment 40% des 100 milliards annoncés par le président.
Il a détaillé le plan de relance, Nathalie Saint-Cricq. Le plan de relance avec une distribution.
Le dispatching d'un certain nombre de montants. À noter que hier, sur l'écologie, on avait pu sembler un peu frustré. Et là, il est manifestement les 20 milliards qui sont consacrés sont.
Il a passé beaucoup de temps. On peut s'arrêter un peu sur l'écologie. Absolument. C'est alors, vrai qu'il n'avait pas
en
eu
a
un
passé
mot.
Parce que d'abord, c'est un enjeu politique évident. Et on sait très bien qu'après les municipales, on a intérêt à parler à la population, aux gens qui ont voté écolo, même si ce n'est pas l'ensemble de la France et que ce n'est pas une population qui éventuellement se déplacerait en cas de présidentielle pour voter également écolo. Il a refait le seul moment où il y avait un petit peu d'esprit politicien dans sa démarche, quand il a dit en gros qu'il n'était pas l'écologie, pour lui c'était de l'investissement et c'est pas la décroissance.
Il dit je crois à la croissance écologique, pas à la décroissance verte.
Il a ébouché un petit sourire du genre on n'est pas comme, je suis pas comme vous. Mais à côté de ça, il a été une fois de plus à la fois concret en donnant des montants et concret, on l'a dit tout à l'heure, en parlant des plans qui pourraient être faits à l'échelon local, c'est-à-dire que en gros, c'est pas on va être écolo, c'est rénovation thermique, vous allez travailler, vous allez nous voir ce que vous nous proposez. Les pistes cyclables, vous allez nous dire ce que vous nous proposez. Il a repris beaucoup de propositions de la Convention citoyenne, y compris sur la publicité.
Évidente. Ça, c'était assez étonnant quand même.
Parce qu'en plus, c'est pas trop son genre. Enfin, on pouvait imaginer que ce n'était pas exactement son genre. Donc,
alors,
il est
c'est
allé
quoi sur la publicité pour expliquer aux gens qui ne l'ont pas vu?
C'est la publicité pour tout ce qui est polluant et qui peut être une incitation. Alors, ça peut aller des gros cylindrés à un certain nombre de choses. Et donc, il y a pas mal d'emprunts dans les propositions de la Convention citoyenne. Et ça, c'est le volet, enfin, à mon avis, qu'il a développé de façon notoire. Alors qu'hier, Emmanuel Macron était passé un peu plus rapidement dessus. Parce qu'il a l'air de rien, mais il fait quand même de la politique.
Moratoire sur l'installation de nouveaux centres commerciaux. Plan vélo ambitieux. Là aussi, ça part d'en bas, c'est dans les communes, etc. Régulation de la publicité pour réduire l'incitation
solaire,
à la consommation.
Panneaux solaires, également panneaux solaires. C'est-à-dire, c'est le panneau solaire sur les toits des villes, enfin des maisons, c'est des choses concrètes.
Certaines choses existaient quand même déjà. Oui. Le plan vélo, là, ils nous l'ont remis alors qu'on l'avait déjà eu.
Oui, mais
on recycle.
On recycle. Il y a des choses qui sont recyclées qui existent déjà.
Jérôme Fourquet, sur l'écologie.
Oui, donc effectivement, il y a une vision très très concrète. Et là aussi, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité, les Français aujourd'hui sont globalement convaincus qu'il faut faire des choses, mais ils restent sur leur faim en disant on reste toujours dans des grandes considérations de principe. Et donc là, le Premier ministre marque encore sa différence en disant voilà, ça va être très très concret, ça va être tant de bâtiments. On aura sans doute aussi des choses sur les circuits courts et l'alimentation, sur tous ces sujets-là, pour montrer que la vie quotidienne des Français va changer et qu'ils vont pouvoir constater de leurs propres yeux que des choses se font et qu'on n'est pas uniquement dans les grands sujets. Parce que juste pour revenir sur la question des retraites, il va y avoir deux problèmes en termes d'opinion, de compréhension. C'est-à-dire, d'une part, on a un chômage qui va augmenter, on va dire aux Français il va falloir travailler plus longtemps, alors qu'on fait beaucoup d'efforts pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail, même si on sait que ce n'est pas forcément un système de vases communicants, mais dans l'opinion, c'est comme ça que ça marche. Et puis, sur ces valses de milliards, beaucoup de Français ont retenu l'idée que quand on voulait, on pouvait. Ouais. Et donc, au moment de 2008, pour sauver les banques, on a mis les milliards. Là, pour relancer la machine, on a mis les milliards. Et donc, quand on va dire qu'il faut faire la réforme des retraites parce qu'il manque 30 milliards, beaucoup de Français vont dire, mais on n'est plus à 30 milliards près sur la somme faramineuse qui a déjà été annoncée. On peut bien en mettre un peu plus. Donc ça va être compliqué à faire comprendre ça.
Et il a essayé d'ailleurs de faire comprendre ça aux Français en différenciant les dépenses. Il a dit dépenser en transformant, c'est de l'investissement pour l'avenir. Ce n'est pas exactement la même chose qu'éponger de la dette sociale.
Justement, il n'a pas oublié le sérieux budgétaire. D'ailleurs, à un moment, il le dit, hein, la nécessité de garder un sérieux budgétaire. De la même façon, la dette spécifique, exceptionnelle du fait de la crise, de la pandémie, c'est la dette Covid qui sera isolée. Quelque part, c'est une forme de dire, bon, il faut pas, on va l'écarter, on la remboursera à très très long terme, on va voir quels vont être les dispositifs qui seront pris. Mais c'est question de dire, le message qu'il voulait faire passer, c'est attention, on ne va pas dépenser l'argent magique, ça n'est pas ça, on ne va pas dépenser sans compter, on reste très sérieux sur la ligne budgétaire, on va faire attention et on fait bien attention avec la dépense avec transformation, c'est-à-dire avec réforme, et puis la dépense sans transformation, c'est-à-dire la dépense courante, la dépense de fonctionnement.
On ne l'a pas dit jusque-là, enfin, peut-être pas suffisamment, la priorité de Jean Castex, comme celle d'Emmanuel Macron, c'est l'emploi.
Ah oui, il a commencé par ça. Il a commencé par ça. C'est pour ça que son discours était assez bien construit. Il a commencé par l'emploi, évidemment, et avec un gros passage sur l'emploi des jeunes. Mais c'est quand même 30 milliards pour le chômage partiel, puisque, et 8 pour 30 pour 2020, 8 pour 2021. Donc c'est vraiment éviter au maximum, d'ailleurs il a cette expression, éviter au maximum les licenciements. Donc la ligne, elle est assez claire. Et donc, tout est décliné en fonction de ça, y compris chez les jeunes. Hein. Grosso modo, il y a 800 à 900 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Le filet de sécurité aujourd'hui, si on ajoute le service civique, les formations, les mesures incitatives à l'embauche des jeunes, on est sur 600 000 jeunes. Donc, on essaie vraiment au maximum de couvrir, j'allais dire, presque une génération de jeunes qui va rentrer sur l'emploi entre maintenant et l'automne.
Et aussi, une vieille recette, la formation. Il en parle en disant aussi. Un vaste plan de formation. Ça rappelle le vaste plan de formation fait par François Hollande en 2016, hein, où il y avait eu des milliards d'euros qui avaient été injectés pour essayer, à l'époque, d'inverser la courbe du chômage, puisque quand les gens sont en formation, ils ne sont pas comptabilisés comme, enfin, en tout cas en catégorie A, c'est-à-dire la catégorie qu'on regarde de Pôle emploi où les gens ne travaillent pas du tout. C'est aussi une astuce pour éviter les projections en termes de chômage, elles font froid dans le dos. Hein. C'est plus de 10% à la fin de l'année, 12-13%.
Entre 800 000 et 1 million, a dit le président hier.
Oui, donc il veut absolument, là le gouvernement veut absolument éviter de retrouver des niveaux de chômage essentiels, sachant que ce gouvernement, Emmanuel Macron comptait beaucoup dessus, avait réussi à faire baisser le chômage, il l'a rappelé d'ailleurs hier, avant la crise.
C'est l'État-providence qui ouvre tous ses parachutes avant la bourrasque qui s'annonce et qui sera extrêmement, extrêmement forte.
La relance a été au cœur du discours du Premier ministre, on l'a bien compris, pour les entreprises. Il a notamment annoncé une baisse des coûts de production, sans entrer davantage dans le détail. L'ensemble de l'économie est soumise à une incertitude. Comment faire si l'épidémie reprend ? Michelin a retrouvé 80% de son activité normale et a mis ses chaînes de production aux normes Covid pour pouvoir continuer à travailler quoi qu'il arrive. Reportage à Clermont-Ferrand, Antoine Magnan et David Lemarchand.
Je suis obligé de me prendre un peu de gel, du coup, avant de repasser le tourniquet.
Depuis quelques semaines, les habitudes de Renault pour entrer dans son usine ont été transformées.
Bon, il faut en mettre deux fois, oui, comme ça permet d'être sûr à 100% qu'on en ait bien mis et qu'on n'ait pas de soucis.
Masques, gel hydroalcoolique en quantité et de nouveaux vestiaires. Des préfabriqués comme celui-là, la direction en a fait construire 20 sur le site pour limiter les interactions entre les salariés.
C'est un gros changement, oui, parce que du coup, en guise de vestiaire, on se retrouve dans un adjego, alors qu'avant, nos vestiaires étaient là-haut. Et ça permet d'éviter le contact et le croisement avec les différentes équipes comme ça. Dans les adjego, pas plus de 4 personnes. Donc si jamais il y a quelqu'un, on attend dehors.
Dans le fief de Michelin à Clermont-Ferrand, cette usine produit des milliers de pneus par jour et emploie 750 salariés qui se relaient 24 heures sur 24. Alors, une fois sur sa ligne de production, ce n'est pas fini pour Renault. Il faut nettoyer le clavier ou recevoir de nouveaux masques de son manager.
On a une attribution de 5-4 masques. Pour les 3 semaines. On en aura 2 par jour. On en a pour 3 semaines, mais si tu as besoin, on est là pour t'en redonner.
On reste avec notre masque, on garde des distances quand il y a du monde qui vient.
on s'habitue. On n'a pas le choix et il faut le faire. C'est mieux pour tout le monde. Quoi. On essaye de voir autre que nous-mêmes et voir un peu pour les autres.
Et pour s'assurer que tout est respecté, Sophie et Salah quadrillent l'usine. Aujourd'hui, le roi du pneu est devenu le roi des gestes barrières.
Les poubelles, tous les masques étaient jetés au bon endroit.
On suit tous, c'est conforme aussi, hein, les deux, avec les affichages qui vont bien.
Et les quantités de spray, c'est conforme également.
Même le réfrigérateur du réfectoire est inspecté.
On vérifie en fait que c'est que des contenants propres qui n'ont pas traîné en extérieur, chez eux, dans le véhicule ou par terre.
Comme dans toutes les usines du groupe, un protocole strict a été mis en place pour garantir la sécurité des salariés et éviter une nouvelle fermeture du site.
On a arrêté l'usine le 16 mars et on a repris le fonctionnement, on a redémarré l'usine le 8 avril. Donc pendant ces 3 semaines, avec la cellule de crise et l'équipe de direction et les experts, on a défini tout le protocole pour pouvoir reprendre l'activité en sécurité. Comment on allait séparer les flux, comment on allait faire respecter les distances, comment on allait expliquer aux gens le port du masque, faire porter le masque, comment on allait réussir à avoir un protocole de nettoyage, les bons produits et que les gens prennent en fait une nouvelle routine.
Marquage au sol pour maintenir une distance d'au moins 1 mètre, siège interdit dans la pièce de repos ou table barrée dans cette salle de conférence. Aujourd'hui, grâce à leur protocole anti-Covid, les salariés ne télétravaillent plus et peuvent se réunir.
Alors, il y a des activités qui sont, je dirais, pas télétravaillables, hein, et notamment tous les postes de production. Mais il y a des fonctions où c'est assez compatible. Donc, je dirais, selon la vigueur de l'épidémie, on pourrait repasser à une organisation un peu hybride comme on a connu.
Depuis que l'épidémie est contrôlée en France, l'usine a assoupli certaines mesures. Fin de la prise de température des salariés à l'entrée ou des horaires décalés pour contrôler les flux. Mais la direction se prépare à toutes les éventualités.
C'est évident que s'il y avait une résurgence très forte de l'épidémie à l'extérieur de l'usine, le dispositif qu'on met en place, on le renforcerait peut-être avec des contrôles à l'entrée, peut-être en reséparant les flux à l'entrée de l'usine pour vraiment limiter au maximum les interactions. Mais les mesures qu'on a aujourd'hui, elles sont suffisantes. Je dirais le port du masque, l'hygiène des mains, la désinfection des vestiaires et des parties communes, en fait, c'est déjà la couverture quasi totale du risque.
Désormais, l'usine semble parée pour une deuxième vague. Mais la bataille qui l'attend est celle du carnet de commandes. Aujourd'hui, le site produit 120 000 pneus par mois contre 150 000 habituellement avant la crise, soit une baisse de 20% de sa production.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas eu un mot hein, sur les plans de reconfinement, sur l'éventuel retour de la deuxième vague. Ça a été évoqué, mais le sujet, c'était surtout de redonner de la confiance. Exactement. Et de relancer la machine.
Sachant que votre reportage le montre bien, ouais. Il y a quand même une incertitude. Hein, et c'est la première incertitude pour les chefs d'entreprise, y compris pour les embauches. Vous pouvez toujours faire des contrats aidés, dire on va vous aider, vous donner des exonérations de charges, de cotisations, si jamais vous embauchez. Si vous n'avez pas de boulot et si vous vous dites que dans quelques mois, il y a un risque de reconfinement ou que les carnets de commandes vont être très bas, il n'y a rien à faire, quoi, le chef d'entreprise. Alors, il fait un geste en direction des entreprises, quand même, hein, très vite, en annonçant, en actant ce que l'on subodorait déjà, c'est-à-dire une baisse des impôts de production. Ce sont des impôts qui pèsent sur les entreprises, qui doivent faciliter, baisser le coût du travail, donc faciliter les embauches. Et c'est une vieille demande patronale. Alors, il promet de ne pas augmenter les impôts des ménages, mais il va falloir politiquement assumer de baisser un peu les impôts des entreprises.
Cette question, l'État doit-il aider absolument toutes les entreprises, Denis Guinochet?
C'est le sujet, c'est un gros sujet de quelles conditions est-ce que les aides, on les met sous conditions. On voit par exemple la sortie sur les dividendes en disant on a un appel à la modération des dividendes si jamais pour les entreprises qui demandent des aides. C'est toujours difficile parce qu'il n'y a pas d'interdiction. On voit bien que c'est un appel à, mais l'État ne peut pas interdire une entreprise de verser des dividendes et certaines vont continuer à le faire. On pense à Total, par exemple, mais qui n'a pas d'aide d'État.
Et l'État appelle aussi à une relance du débat sur les partages de la valeur. Alors ça aussi, c'est une vieille lune. Hein. Dans la discussion avec les partenaires sociaux, ce sera l'objectif de davantage de partage de la valeur.
Voilà. Alors, et dans la suite du Covid, de récompenses aux premières et deuxièmes lignes et aux premiers de corvée ou aux premiers... Voilà. L'État fait un geste de son côté en direction du personnel hospitalier. Et donc maintenant, il renvoie la balle aux dirigeants d'entreprise en disant, par exemple, dans la grande distribution, dans le transport routier, tous ceux qui ont fait que la France a pu se nourrir pendant cette crise, tous ceux qu'on a applaudis, qui ont été mis à l'honneur au 14 juillet, une hôtesse de caisse, un éboueur, etc., etc., eh bien, il faut que les entreprises, autant que faire se peut, puissent aussi tenir leurs engagements et renvoyer l'ascenseur à leurs salariés, avec des contraintes qui vont être fortes, parce que beaucoup de ces chefs d'entreprise vont dire « mais notre carnet de commandes n'est pas revenu à l'état qu'il était avant la crise, on a encore des grandes difficultés ». Et donc déjà, nous, notre impératif, c'est d'essayer de garder nos salariés avant peut-être de réaugmenter tout le monde.
Nathalie Saint-Cricq.
Sachant que qu'on n'est pas dans une économie administrée, même si on va avoir de nouveau un plan, et que c'est au bon vouloir, vous disiez tout à l'heure, c'est une invitation à la modération. Donc on va les inviter à la participation. Premier point, pour partager de la valeur, il faut qu'il y ait de la valeur. Donc ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Ce qu'on nous annonce, ce n'est plutôt pas exactement ça. Deuxièmement, je ne sais pas si vous vous souvenez du cas qu'il y avait avec la grande distribution, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises de la grande distribution avaient accepté de donner une prime. Et puis, du côté des centres Leclerc, on avait dit que c'était franchisé. C'est extrêmement compliqué. On ne peut pas imposer à chaque entreprise de donner une prime à ceux qui ont travaillé tout le temps. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui est une belle idée, une belle idée aussi du gaullisme social, mais qui est probablement à échéance assez lointaine.
Sur le discours économique, il n'y a pas de recette économique pour redonner de la confiance, un discours très clair vis-à-vis du monde de l'entreprise. C'est plus sur le rôle de l'État dans ce moment-là qu'il a été très présent aujourd'hui, Jean Castex. Il n'y a pas une recette très différente économiquement de
tout
ce qui a été fait.
Non, il n'y a pas de recette, on ne tente pas des choses nouvelles. On met tous les parachutes de l'État-providence pour essayer de sauver un maximum d'emplois dans la période qui s'annonce et qui va être une bourrasque très très forte. Moi, je me méfie énormément de tous ces mots qui sont affichés. Le plan, c'est très plan-plan, c'est très vieux. Je pense que ça ne dit pas grand-chose aux gens. Et en 600 jours, croyez-moi, il ne va pas en sortir grand-chose. Mmh. C'est surtout peut-être, dit-on, un cadeau pour François Bayrou. Quant à la belle idée, comme dirait Gérald Darmanin, de la participation, oui. Bon, c'est des choses qu'on a entendues, les Français
des
ont entendues des dizaines de fois. Et c'est vraiment pas ça qui va changer leur vie dans l'immédiat. Et en plus, encore une fois, il y a des dispositifs qui existent déjà. Donc les entreprises, souvent, elles réchignent un peu à les appliquer, à les mettre en œuvre. Les salariés ne savent pas toujours comment ça marche, par ailleurs. Donc, bon, voilà, je crois vraiment pas que c'est ça qui fera la différence.
C'est effectivement, il y a un risque déceptif très très fort sur ces dispositifs. Après, c'est aussi quelque chose qui va flatter les partenaires sociaux, parce qu'en mars 2019, les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord. Alors, pas tous, hein, pas la CGT qui n'avait pas signé, mais il y avait quand même eu un travail fait autour du partage de la valeur ajoutée. Un consensus qui montrait, ils avaient fait une étude, MEDEF, CPME. Mais voilà, sur quoi ça va déboucher là, dans le quotidien des Français? Il y a quand même le risque, c'est pas comme s'il avait annoncé une prime, la prime qu'il y avait eu par exemple pendant les Gilets jaunes. Bon, bah là, exonéré de charges, tout le monde avait compris, et les chefs d'entreprise, c'était facile.
C'est vrai, ce que dit Bruno Joly, c'est quand même une vieille histoire. Nicolas Sarkozy avait fait une grande sortie sur le partage de la valeur, les un tiers, un tiers, un tiers.
Voilà. Mais c'est... quand vous regardez, ce sont des vieilles recettes. Oui. Les emplois jeunes, le plan, le partage de la valeur. La nouveauté peut-être dans la gestion de la crise, c'est le chômage partiel de longue durée.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Emmanuel Macron se trompe souvent, mais il sait choisir ses premiers ministres. C'est Pierre dans les Yvelines qui nous dit ça. C'est vrai qu'il n'est pas mauvais pour le choix de ses premiers ministres.
Il a plutôt eu la main verte avec Édouard Philippe. Hein. Il est tellement eu la main verte qu'il a fini avec plus de 57% de bonnes opinions, ce qui a créé quelques problèmes. Jean Castex, bah, il fait plutôt des bons débuts. Alors après, il faut voir comment ça a marché avec l'opinion. Hein. Parce que quand même, l'opinion, pour l'instant, dans l'enquête qu'on publie de l'IFOP avec Paris Match, ça reste quand même mitigé.
Mais ils ne le connaissent pas.
C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc là, pour ceux qui vont regarder, il aura sans doute fait relativement bonne impression. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on juge aux actes et on juge sur pièce. Donc il faudra voir dans les mois qui suivent ce qui se...
Je disais ça, Jérôme, juste en comparant, puisque ouais. 47% pour la première mesure donc constatée par l'IFOP, c'était 10 points de plus pour Manuel Valls, qui est le deuxième Premier ministre de François Hollande. On est plutôt au niveau de Dominique de Villepin. Voilà, si on veut comparer un peu les premiers ministres. Donc, on est plutôt dans le plancher bas, Dominique de Villepin, Jean Castex. Plancher haut, c'était Manuel Valls. Ça avait bien marché au début, Manuel Valls.
Mais bon, qui était connu.
Voilà.
C'est ça. Castex n'est-il pas, sur son style, l'anti-Macron?
Ah oui, il l'est. C'est pour ça qu'il a été choisi, c'est pour ça que ça peut éventuellement marcher. Et c'est pour ça aussi qu'avec son côté, je protège tout le monde, enfin cette espèce d'idée de protection, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il prie le ciel que les gens consomment. Donc il leur dit que ça va s'arranger, parce que si les gens ne consomment pas dès cet été, c'est-à-dire tout ce qui a été épargné, peut-être de façon excessive, si ce n'est pas désépargné et que les gens se disent que ça va être la catastrophe à la rentrée, il faut qu'on mette tout à la banque et qu'on n'achète rien, ça va être une catastrophe. Donc le côté Castex, gentil, qui protège tout le monde, et voilà, c'est uniquement pour. Enfin, c'est pas uniquement, mais c'est ça. Ça doit servir aussi à ça. C'est de dire, allez-y, on ne vous lâchera pas, continuez. Et c'est effectivement pour ça que c'est l'anti-Macron qui peut de temps en temps avoir été anxiogène.
L'homme a les épaules larges, mais la charge n'est-elle pas trop lourde ?
On va voir. Pour l'instant, c'est vrai qu'il prend les rênes du pays à un moment où c'est quand même extrêmement compliqué. Il l'a dit au tout début, c'est une crise comme on n'a pas vu depuis, une crise sociale et économique comme on n'a pas vu depuis l'après-guerre. Donc, il ne prend pas de risque, c'est le bon père de famille qui dit attention, les dépenses, elles vont être contrôlées, attention, on va bien vérifier que les décisions qui seront prises, elles arriveront bien dans les territoires, elles vont toucher le quotidien.
Vous diriez qu'il n'y a pas de souffle ?
Il n'y a pas de souffle, il en manque peut-être un peu, mais aujourd'hui, est-ce que les Français ont envie d'avoir le souffle qu'incarne un Emmanuel Macron qui leur faisait miroiter au début du quinquennat, ouais, des changements, alors que là, la priorité des Français, ça va être, on l'a rappelé, mais la sécurité et l'emploi, avoir un travail, ne pas se sentir
être protégé,
déclassé. Donc, il va, pour l'instant, il y a plutôt le patron taillé pour le job.
Pour le job, allez. On continue les discussions inutiles, la fermeté est toujours absente, les Français sont pourtant demandeurs d'autorité. Non, ça c'est vrai.
Ce qu'on disait, voilà. Et donc là, il y aura une pression très forte sur le nouveau garde des Sceaux et sur la politique pénale qui sera impulsée. Beaucoup de gens vous disent aujourd'hui, des peines à moins de 2 ans ne sont plus exécutées. Et donc, la France qui ne dit rien et qui n'en pense pas moins tombe de sa chaise. Quand on dit que quelqu'un est condamné à 2 ans de prison ferme et que la peine n'est pas exécutée, c'est complètement incompréhensible. Donc là, il y aura ce rendez-vous majeur avec les Français là-dessus.
Un haut commissariat au plan, de quoi parle-t-on exactement ? À quoi cela sert-il in fine ? C'est à vous que j'ai posé la question, Bruno Gédy.
Il
ne
faut pas répondre pour François Bayrou, à caser François Bayrou. Non.
Le commissariat au plan, d'abord, c'est une vieille affaire en France. Hein. Il y a longtemps eu des commissaires au plan, jusqu'au début des années 2000. Hein. Je crois que c'est Dominique de Villepin qui met un terme à cette institution, qui au passage avait été remplacée par un centre d'analyse stratégique devenu France Stratégie. Donc,
qui existe toujours.
On a toujours en France ces vieilles habitudes de ces machins qui existent. Mais cela étant, c'est vrai que dans les années 60, 70, 80, le plan, le commissariat au plan a produit des choses, a réfléchi à la France des 2 décennies plus loin. C'est comme ça qu'on a fait les TGV, c'est comme ça qu'on avait les centrales nucléaires, que des choses que les écolos adorent aujourd'hui. Et donc, on verra ce que fera ce plan lorsqu'il sera pris en main.
Bon, 600 jours.
600 jours.
Voilà. Et qui va le prendre en main ?
Et qui va le prendre en main ? Vous avez parlé de François Bayrou parce que c'est ce qui a été évoqué, c'est pas fait.
Son nom a été évoqué, c'est pas encore fait officiellement.
Décidément, la journée de vendredi des partenaires sociaux va être très chargée. Non, c'est Corinne en Meurthe-et-Moselle qui dit ça et elle a raison.
Ah oui, franchement, sur tous les sujets, pour le coup, ils sont consultés, concertés. On ne sait pas derrière s'il y aura des négociations. La vraie question, c'est, bon, c'est bien beau de faire un sommet social ou de renouer avec des vieilles traditions, certains diront des grenelles, etc. Mais ça va déboucher sur quoi ? Et est-ce que la parole des partenaires sociaux va être prise en compte ? Parce qu'au début du quinquennat, il y avait des concertations, par exemple, au début, on l'a un peu oublié, mais pour les ordonnances. Mais sauf qu'ils avaient été consultés tout l'été. Et puis, les ordonnances travail qui avaient été prises au début, en 2017, qui réforment le marché du travail, les partenaires sociaux vous disaient, on a un peu fait de la figuration. Donc, on va voir comment, vu le temps en plus, comment le dialogue social va être transformé.
Et dans le même ordre d'idée, si le gouvernement réaffirme sa volonté d'avancer sur la réforme des retraites, vous avez déjà toute une série d'organisations syndicales qui vont dire tout ça est en fait de l'enfumage et non, on ne sert que de faire valoir parce que les dés sont pipés depuis le début.
Avec une petite marge de manœuvre sur l'assurance chômage, on n'en a pas parlé, qui est quelque chose effectivement qui est irrité profondément et on peut le comprendre dans la situation actuelle, les organisations syndicales et qui pourraient éventuellement être reportées, repoussées en considérant que ce n'est pas le moment de faire ça et ça pourrait être une espèce de...
L'idée de cette réforme de l'assurance chômage, c'était de durcir,
les règles d'indemnisation
du chômage. Effectivement, ça semble être un peu anachronique avec la rentrée qui nous attend. Une autre question, la réforme des retraites est-elle bien nécessaire dans le contexte actuel ? N'a-t-on pas d'autres problèmes à régler ? C'est ce que disent les syndicats.
Voilà, effectivement, la priorité, c'est l'emploi. Mais les deux sont quand même liés, parce que quand vous avez moins de gens qui travaillent, vous avez moins de cotisations qui remplissent les caisses de retraite. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, puis c'est un gage donné à la droite. Hein. C'est de dire, attention, on n'a pas oublié, dans la période, c'est de la politique, on n'a pas oublié le fait de travailler davantage, travailler plus longtemps, c'est un peu ça qui est derrière.
30 milliards de déficit à terme. Et si aucune réforme, enfin, si la réforme n'est pas bouclée dans ce quinquennat, Mme Macron serait quand même le premier président à ne pas boucler une réforme des retraites dans son mandat. Ça a été le cas de Jacques Chirac, le cas de Nicolas Sarkozy et même le cas de François Hollande.
Jean Castex a-t-il la fibre écologique ?
En tout cas, il l'articule avec son côté territoire. Ouais. J'allais presque même dire terroir, hein, c'est-à-dire les panneaux solaires, les pistes cyclables, l'isolation des bâtiments. Une écologie qui n'est pas décroissante et punitive comme certains peuvent
c'est important, il a insisté là-dessus. Il a dit c'est pas aux Français, on va pas refaire la taxe carbone. En voilà. Quoi. C'est ça qu'on a compris. Là,
on va vous aider à transformer les infrastructures, vos modes de vie, pour que collectivement, on aille vers ça. Donc c'est une écologie pragmatique.
Va-t-il y avoir plus de fonctionnaires des administrations centrales en région sur le terrain ? Ça avait été évoqué par le président Macron.
Effet, parce que par exemple pour les impôts, vous avez un certain nombre de fonctionnaires qui ont été affectés dans les territoires après les Gilets jaunes, justement en disant on va refaire du service public au plus près des gens. Donc c'est de la continuité.
Décentralisation, réorganisation de l'État, plan contre le chômage des jeunes, est-ce que ce ne sont pas là de vieilles recettes déjà testées ?
C'est ce que dit Fanny Guinochet. Certaines ont fonctionné. Oui, donc,
Puis c'est passé des choses entre voilà. temps. C'est autant les emplois aidés, on pouvait considérer qu'en période de croissance ou de baisse du chômage, ce n'était pas utile. Maintenant, après tout ce qui est arrivé en France.
Report de la suppression de la taxe d'habitation, comme d'habitude, les classes moyennes sont mises à contribution.
Mais c'est vrai que ça, c'est sans doute un des éléments qui va fâcher un peu la France qui est juste au-dessus des 2500 euros. C'est reporté en 2023.
Hein. 20% de y a-t-il un paradoxe ? Quand l'économie va bien, il n'y a pas d'argent. Et quand ça va très mal, il en tombe de partout. Expliquez-moi ça. Ben Jean, on refera une émission sur ce sujet. Mais c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure.
C'est l'idée selon laquelle il y a un levier magique et un levier qu'on peut actionner.
Et ça va falloir le gérer à la rentrée. Hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jérôme Fourquet. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25 et je vous rappelle que C'est dans l'air est une émission qui s'écoute, C'est dans l'air est à retrouver sur toutes les plateformes en podcast. Belle soirée sur France 5.